Cet enseignement des sciences religieuses et des grandes traditions dans un contexte universitaire est essentiel pour connaître les racines de notre culture et aussi pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas parce que les églises se vident que le religieux disparaît.
Chaque année, l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de La Personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute du balado Les Remarquables de l'Université Laval. Mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé de l'Université Laval en communication publique, et j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec le professeur émérite Paul-Hubert Poirier, lauréat du prix Grand Diplômé 2024. Avant de commencer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son impressionnante et brillante carrière. Détenteur de 6 diplômes universitaires, dont un diplôme de l'École normale supérieure de l'Université Laval et un doctorat en histoire des religions de l'Université des sciences humaines de Strasbourg, Paul-Hubert Poirier est un expert reconnu mondialement pour ses recherches sur le gnosticisme, le manichéisme et le christianisme ancien. Professeur, conférencier et auteur, M. Poirier a consacré une grande partie de sa vie au projet de traduction française et d'édition de la bibliothèque copte de Nag Hammadi, une collection de manuscrits coptes datant du milieu du IVe siècle qui a mené à la publication de plus de 50 volumes. Membre de la Société royale du Canada, M. Poirier a été honoré à maintes reprises au cours de sa carrière. Il a notamment été décoré de la médaille Pierre-Olivier Chauveau par la Société royale du Canada, a reçu le prix André Laurendeau de l'ACFAS, nommé chevalier de l'Ordre national du Québec, en plus d'être élu associé étranger de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de l'Institut de France. Paul-Hubert Poirier, bonjour.
Bonjour, M. Sirois.
C'est un honneur de m'entretenir avec vous aujourd'hui, M. Poirier. D'abord, toutes mes félicitations pour le prix Grand Diplômé de l'Université Laval qui vous est décerné aujourd'hui. Qu'est-ce que cela vous fait de voir votre carrière être une fois de plus reconnue de la sorte?
Alors, je dois vous dire que j'ai été très surpris lorsqu'on m'a appris que ma candidature avait été retenue pour le prix Grand Diplômé de l'Université Laval. Au fil des années, j'ai vu défiler les noms de personnalités remarquables qui ont reçu ce prix, et je ne me suis jamais imaginé figurer un jour à leur côté. Cela étant dit, j'ai fréquenté l'Université Laval à titre d'étudiant et de professeur depuis 1968. Et sur le plan professionnel et de ce que j'ai pu réaliser dans ma carrière d'enseignement et de recherche, je n'hésite pas à reconnaître que je dois tout à l'Université Laval. L'Université Laval m'a procuré des conditions vraiment exceptionnelles pour travailler sur les sujets qui m'intéressaient et que je considérais importants, et surtout pour contribuer auprès des étudiants à la diffusion et à l'avancement des connaissances. Alors, je me sens donc évidemment particulièrement honoré de cette reconnaissance qui m'est accordée, et je l'accueille non seulement à titre personnel, mais aussi comme une reconnaissance par l'institution universitaire de l'importance, de la pertinence du domaine dans lequel j'ai travaillé. Mais tout cela n'aurait pas été possible sans un travail d'équipe qui dure depuis presque un demi-siècle et sans la présence stimulante des étudiants et étudiantes que j'ai côtoyés tout au long de ces années.
Merci, M. Poirier. Je l'ai mentionné en introduction, vous êtes un expert reconnu mondialement pour vos recherches sur le gnosticisme et le christianisme ancien. Avant d'aller plus loin et pour bien comprendre, pourriez-vous définir ces concepts que je viens tout juste d'énumérer?
Alors, c'est une excellente question qui pourrait nous occuper pendant un bon bout de temps, et ce sont les domaines sur lesquels j'ai travaillé pendant, je dirais, les 50 dernières années. Alors, j'y répondrai rapidement en prenant les choses à rebours et en commençant par ce qu'on appelle le christianisme ancien. Alors, comme vous le savez, le christianisme, c'est ce mouvement religieux qui se réclame d'un prophète réformateur du nom de Jésus de Nazareth, qui a réellement existé en passant, mis à mort par le pouvoir romain en l'année 30 de notre ère, fort probablement à l'instigation des autorités sacerdotales juives. Alors, ce mouvement-là va très rapidement se répandre dans tout le bassin méditerranéen. Il va atteindre surtout les villes à partir de la Palestine et il va s'exprimer principalement en grec, qui était la grande langue de culture à l'époque. Alors, sur le plan historique, on divise l'histoire du christianisme en périodes qui coïncident plus ou moins avec celle de l'histoire universelle, Antiquité, Moyen-Âge et ainsi de suite. Donc, ce que l'on désigne comme le christianisme ancien, c'est la période de l'histoire chrétienne qui va de la naissance du mouvement chrétien vers les années 30 de notre ère jusqu'aux années 600. Donc, une période, la période cruciale, fascinante des débuts de la structuration du mouvement de Jésus sur le plan de l'organisation, de la diffusion de la pensée chrétienne, de la littérature chrétienne. Et c'est ce christianisme ancien qui a été le tableau de fond, en quelque sorte, de toute mon activité de recherche et d'enseignement. En ce qui concerne le gnosticisme, pour dire les choses simplement, c'est un terme qui vient du grec gnosis, qui veut tout simplement dire connaissance. Bon. Alors, le gnosticisme, c'est un phénomène qui apparaît, un mouvement intellectuel, disons, qui apparaît au 2e, 3e siècle de notre ère, qui se base sur l'accès à une connaissance particulière, en quelque sorte ésotérique, qui porte sur Dieu, sur le monde céleste, sur la création du monde, sur l'être humain, sur la mort et sur l'au-delà. Alors, sur ces questions-là, le gnosticisme a apporté des réponses différentes de celles que donnaient les Juifs ou donnaient les chrétiens. Ce qui va amener les autorités, les responsables des communautés chrétiennes, en particulier les évêques, les théologiens chrétiens, à combattre les partisans de cette doctrine nouvelle, de cette connaissance secrète, ésotérique, réservée à des initiés, de les combattre au point que l'on va pratiquement faire disparaître ce mouvement et surtout provoquer la disparition de leurs écrits. Disparition qui ne fut pas, toutefois pas, je dirais, permanente, puisque des événements importants vont se produire au milieu du XXe siècle qui vont favoriser une véritable réémergence de ce mouvement fondé sur le partage d'une connaissance religieuse et philosophique particulière.
Très bien, Monsieur Poirier. Merci de nous avoir instruits sur ces concepts et d'y avoir intégré justement certaines notions d'histoire. Plongeons maintenant au cœur de vos recherches et de votre éminente carrière. En 1945, une série de papyrus datant du 4e siècle et écrits en langue copte ont été découverts dans la ville de Nag Hammadi, située en Haute-Égypte. Vous avez dirigé les travaux de traduction et d'édition de ces manuscrits en français, un travail colossal qui a mené à la publication de plus de 50 volumes et qui a occupé un très grand pan de votre carrière. Qu'est-ce qui rend le contenu de ces écrits aussi important et fascinant?
Alors, pour répondre à votre question, il faut remonter, comme vous l'avez mentionné, au mois de décembre 1945, date à laquelle un ensemble de manuscrits sur papyrus, c'est-à-dire ce support d'écriture fabriqué à partir d'une plante qui pousse le long du Nil. Mm-hmm. Donc, un ensemble de manuscrits sur papyrus ont été découverts, par hasard, par des paysans égyptiens, près de la ville de Nag Hammadi, située à environ 130 kilomètres au nord de Louxor, la vallée des rois, au pied d'une falaise sur la rive ouest du Nil. Bon. Un premier manuscrit a été acquis par le musée copte du Caire en 1946, mais ce n'est qu'en 1975 que l'ensemble de la collection va être réunie au musée copte. Alors, la collection de Nag Hammadi, elle se compose de 13 codex. C'est un terme emprunté au latin et qui désigne un livre au sens moderne du terme. Dans son état actuel, la collection compte près de 1200 pages et contient 52 écrits dont la plupart étaient inconnus. Bon, divers indices montrent que ces écrits ont été traduits du grec en copte. Alors, qu'est-ce que c'est que le copte? C'est le dernier état de la langue égyptienne, connu à partir du IIe siècle de notre ère. Le copte se distingue par le fait que la langue égyptienne n'est plus écrite avec les signes hiéroglyphiques, qui étaient devenus trop compliqués, mais par un alphabet formé des lettres grecques auxquelles on a ajouté un certain nombre de signes. Bon. Alors, les écrits découverts à Nag Hammadi ont été traduits du grec en copte entre les années 300 et 350, et les écrits originaux grecs ont dû être composés entre 150 et 250. Bon. Alors, à partir de 1972, ces manuscrits de Nag Hammadi ont été facilement accessibles parce que l'UNESCO en a produit une reproduction photographique devenue accessible, si vous voulez, à tout le monde. Bon. Alors, trois équipes se sont fixées comme objectif d'éditer et de traduire ces manuscrits. Donc, la Coptic Gnostic Library aux États-Unis, la Nag Hammadi Deutsch en Allemagne de l'Est à l'époque, et la Bibliothèque copte de Nag Hammadi ici à l'Université Laval. Bon. Alors, cette collection, qui est toujours active, a été, dont les premières publications datent de 1977 et qui va totaliser bientôt une soixantaine de volumes, se distingue des deux autres parce qu'elle accorde plus d'importance aux explications des textes. Bon. En 2007, l'ensemble des textes découverts à Nag Hammadi a été publié en traduction française par l'équipe de l'Université Laval avec ses collaborateurs internationaux dans la prestigieuse collection de la Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard à Paris. Alors, cette publication a été un événement, non seulement pour les auteurs, mais pour l'Université Laval et sa faculté de théologie et de sciences religieuses, et aussi un événement pour la communauté scientifique francophone et internationale, parce que pour la première fois, l'intégralité d'une des plus importantes découvertes de manuscrits du XXe siècle était désormais accessible aux spécialistes et à tout lecteur curieux et intéressé dans une traduction française scientifique réalisée sur les originaux en langue copte. Alors, cette parution marquait en même temps l'entrée des textes dans la littérature mondiale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces manuscrits? Bon. Je dirais pas qu'on y trouve de tout, mais on y trouve une collection marquée par la diversité. On rencontre des textes qui ressemblent à ceux du Nouveau Testament. Bon, des évangiles, comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie-Madeleine, des apocalypses, comme celle de Paul ou de Jacques, des actes, comme celle de Pierre et des douze apôtres, des lettres ou des épîtres, comme l'épître d'Eugnoste, des dialogues de Jésus avec ses disciples, des écrits de Chagès, et aussi des écrits attribués au dieu grec Hermès, qui était le dieu de la sagesse et de l'écriture. Et on y trouve aussi un ensemble d'écrits qui n'entrent pas dans les catégories que je viens d'énumérer, mais qui ont été produits justement par les gnostiques que nous venons d'évoquer, des écrits qui avaient été qu'on croyait disparus, qui nous étaient inconnus, et qui tout d'un coup refont surface et nous permettent de connaître ces fameux gnostiques. Alors, la publication de la bibliothèque copte de Nag Hammadi à l'Université Laval, donc ça résulte, comme vous pouvez le deviner, du travail collectif d'une équipe mise sur pied dans les années 1970 par les professeurs Hervé Gagné et Michel Roberge, avec le concours du professeur Jacques Ménard de l'Université de Strasbourg.
Et que vous aviez le plaisir de diriger, n'est-ce pas?
Oui, alors que j'ai justement dirigé pendant un certain temps. Donc, au fil des années, cette équipe a regroupé près de 40 chercheurs québécois, canadiens, européens et américains. Et la direction de cette équipe a été assurée par Michel Roberge, puis par moi-même, et ensuite par Louis Pinchot, et elle l'est actuellement par un plus jeune collègue, Éric Crégeur. Alors, cette collection de Nag Hammadi est une collection d'une importance exceptionnelle parce qu'elle nous permet de connaître, elle fait revivre, donc autrement dit, on a un groupe de gnostiques chrétiens qui se sentaient persécutés, qui ont jugé prudent de cacher leur bibliothèque pour la préserver de la destruction et la retrouver en des jours meilleurs, ce qui ne s'est produit que quelques 1500 ans plus tard.
Bon. Quand même.
Ouais. De fait, on ne peut pas comprendre comment la pensée chrétienne s'est construite au cours des siècles, et spécialement dans l'Antiquité, sans tenir compte de l'apport des gnostiques, et c'est ce que nous permet de saisir les textes découverts à Nag Hammadi et dont le leadership de l'Université Laval a permis la diffusion non seulement dans le monde scientifique, mais pour l'ensemble de la communauté, dans le monde francophone plutôt, mais pour l'ensemble de la communauté scientifique.
Donc, la découverte de ces manuscrits permet de mieux comprendre comment la religion catholique s'est structurée et comment le christianisme a évolué au fil du temps.
A évolué. Qu'est-ce qu'on a retenu comme doctrine? Qu'est-ce qu'on a refusé? Comment tout cela s'est organisé? Donc, n'oublions pas qu'au moment où les gnostiques apparaissent, au 3e, 4e siècle, il y a une espèce de free-for-all, mais il y a une espèce de foisonnement de doctrines qui sont en compétition les unes avec les autres. Et il faudra attendre les années 400 et 500 avec les grands conciles pour qu'il y ait une espèce de structuration qui va se produire et qui va donner la forme des religions chrétiennes, catholiques, orthodoxes ou protestantes que nous connaissons aujourd'hui.
Monsieur Poirier, vous avez participé à la création et à la diffusion de plus de 230 cours et séminaires à tous les cycles en théologie, en sciences des religions, en études anciennes, en histoire, en langues orientales anciennes et en grec à l'Université Laval. Vous avez fondé et dirigé l'Institut d'études anciennes et médiévales. On peut dire sans se tromper que vous avez laissé votre marque à l'Université Laval. Quels ont été vos moteurs, vos motivations, vos sources de fierté tout au long de votre carrière de professeur plus que prolifique?
Effectivement, en presque 40 ans de carrière active comme professeur à l'Université Laval, donc de 1979 à 2019, date de ma prise de retraite, j'ai eu l'occasion d'enseigner à des centaines d'étudiants dans plusieurs programmes et aux trois cycles. Alors, l'essentiel de mon enseignement a évidemment porté sur le christianisme ancien, dans des cours et séminaires spécialisés au deuxième et troisième cycle, consacrés au gnosticisme, aux écrits apocryphes relatifs à l'apôtre Thomas, c'est une de mes spécialités, et à certains textes du Nouveau Testament, ou encore aux personnages historiques de Jésus de Nazareth. Mais un des cours que j'ai donné presque à tous les ans, de 1982 à 2019, était un cours de premier cycle, qui portait sur l'histoire du christianisme dans l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge, en d'autres termes, le christianisme du premier millénaire. Ce fut pour moi un grand plaisir et un privilège, année après année, de faire découvrir cette histoire à des générations d'étudiants, jeunes et moins jeunes, venant de tous les horizons. Alors, dans ce cours, j'ai pu mettre de l'avant une approche strictement historique et non pas croyante ou confessionnelle de la religion chrétienne d'Orient et d'Occident. Mes recherches sur les textes de Nag Hammadi, sur les littératures de l'Orient, m'ont également amené, comme vous l'avez souligné, à mettre sur pied des cours d'initiation à des langues de l'Orient chrétien, comme le syriaque ou l'éthiopien, et même, mais là on sort du domaine du christianisme, à l'égyptien pharaonique ou hiéroglyphique. J'ai pu ainsi procurer une formation de base qui a conduit quelques étudiants à produire des mémoires de maîtrise ou des thèses de doctorat dans ces domaines. Alors, si on ajoute au syriaque, à l'éthiopien et à l'égyptien, si on y ajoute le copte, le grec, le latin ou le sanskrit, on peut affirmer que l'Université Laval est l'une de celles qui offre la plus riche palette d'enseignement de ces langues au Canada. Un autre volet important de mon activité auquel vous avez fait référence a été la création de l'Institut d'études anciennes, devenu par la suite l'Institut d'études anciennes et médiévales. Alors, la création de cet institut résulte d'une initiative du professeur Jacques Desautels, qui était alors doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines, qui voulait assurer la survie des études anciennes à l'Université Laval. Alors, cet institut a été créé en 1999 et il a célébré en 2024 ses premières 25 années d'existence. Il s'agit d'une entité unique au Canada par la diversité des disciplines, des professeurs, des chercheurs et des étudiants qui le composent et qui sont tous intéressés à des degrés divers par l'étude de l'Antiquité et du Moyen-Âge sous toutes leurs formes, archéologie, histoire, langue, littérature, philosophie et religion. Avec les collègues qui ont cru à cette aventure et qui continuent d'y croire, la création de cet institut est une des réalisations dont je suis particulièrement fier. Mais ce qui demeure ma plus grande source de satisfaction, ce sont les étudiants et les étudiantes à la formation desquels j'ai pu contribuer tout au long de ces années. Je songe aux nombreux étudiants de premier cycle auxquels j'ai enseigné et dont j'ai toujours été stimulé par leur curiosité pour l'histoire du christianisme ancien et médiéval et par leur désir d'apprendre. Je songe aussi aux étudiants des cycles supérieurs de maîtrise et de doctorat que j'ai eu le privilège d'accompagner et d'encadrer. C'est ainsi que j'ai dirigé ou co-dirigé 25 mémoires de maîtrise et 20 thèses de doctorat et que j'ai encore en supervision 2 thèses de doctorat et 1 mémoire de maîtrise. Je suis particulièrement fier du fait que la majorité des thèses de doctorat que j'ai dirigées ou co-dirigées sont devenues des publications, sont devenues des livres publiés par les étudiants. C'est ainsi que ces étudiants-là, que j'ai eu tout au long de ma carrière, font rayonner l'Université Laval tout en apportant leur contribution au progrès des connaissances.
Vous êtes professeur émérite, auteur, conférencier. Vous avez consacré votre vie à l'enseignement et au partage de vos découvertes et connaissances. Quel est l'avenir de l'enseignement des sciences religieuses dans les universités du Québec, selon vous, M. Poirier?
Vaste question.
Oui, absolument.
Disons que les sciences religieuses, comme discipline scientifique, sont enseignées dans toutes les grandes universités du monde. Il s'agit d'un enseignement de type universitaire, et non pas de propagande ou d'endoctrinement. Cet enseignement des sciences religieuses et des grandes traditions religieuses dans un contexte universitaire est essentiel pour connaître les racines de notre culture et aussi pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas parce que les églises se vident que le religieux disparaît. Ce que je remarque depuis le moment où j'ai commencé à enseigner en 1979, c'est qu'on a une clientèle, si je peux employer ce terme, disons qu'on a un public étudiant qui est beaucoup plus diversifié. À la fin des années 1970, début des années 1980, c'était davantage un public qui, je dirais, appartenait au monde traditionnel du catholicisme, du monde religieux, de la pratique religieuse, alors qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le phénomène religieux intéresse une grande variété de personnes, parfois en raison de leurs propres convictions religieuses, mais souvent aussi pour des raisons culturelles, pour des raisons historiques, par exemple des étudiants qui sont engagés dans des programmes d'histoire, qui veulent comprendre comment fonctionnait le Moyen-Âge où la religion était omniprésente. Des étudiants en histoire de l'art, on ne peut pas faire de l'histoire de l'art occidentale sans avoir une certaine familiarité avec le monde religieux. Ou encore des personnes qui s'intéressent à la réalité politique d'aujourd'hui et qui doivent être familiarisées avec l'importance que tient le religieux dans bon nombre de civilisations. Donc, je pense qu'il y a un très grand avenir promis aux sciences religieuses, mais qui est justement dans la perspective de rendre accessible à une grande variété d'étudiants, d'auditeurs, à un public intéressé, ce que sont les grandes traditions religieuses, ce qu'est la réalité religieuse dans le monde dans lequel nous vivons et d'où viennent ces traditions. Je dirais, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, faut avoir une bonne idée d'où ça vient.
Effectivement.
C'est-à-dire comment ces traditions-là se sont construites.
C'est ce qui termine notre entretien, Monsieur Poirier. Dans la page web qui vous est consacrée à titre de professeur émérite, on dit de vous une rare érudition doublée de grandes qualités humaines. Et je ne peux qu'être en accord avec cette affirmation, M. Poirier. Vous êtes un homme brillant et d'une immense courtoisie. Ce fut un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Et encore une fois, félicitations pour le prix Grand Diplômé qui vous est décerné.
Je vous remercie.
Cet entretien avec Paul-Hubert Poirier, lauréat du prix Grand Diplômé, a été réalisé le 30 janvier 2024 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.